théâtre La Passerelle, à Gap, vous propose de rencontrer les artistes complices sur Fréquence Mistral.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission de Fréquence Mistral où nous vous présentons les artistes en résidence et associés au théâtre La Passerelle. Aujourd'hui avec nous, Cécile Brochoir qui est venue nous parler de sa dernière création en date qui s'appelle Les Vaillantes. Cécile, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour te présenter en quelques mots avant ça, bien sûr, tu es comédienne, metteuse en scène, fondatrice de la compagnie Chabrac qui a été créée en 2006. Pour commencer cette interview, j'ai relevé une anecdote qui m'a amusée à découvrir. Chabrac, ce serait un terme du patois poitevin qui signifie partir dans tous les sens. Et donc, Cécile, j'avais envie de te demander, toi, en ce moment, comment est ton état de chabrac en ce moment ?
Les chabracrins, chabraquiens, chabraquiennes se portent plutôt bien. Là, on est un peu dans tous les sens, effectivement. En fait, c'est un terme, effectivement, qui vient du patois poitevin, dont je suis originaire. Et c'est quelque chose que j'ai entendu, qu'on a pu me dire quand j'étais enfant, mais qui était employé de façon plutôt péjorative. Quand la compagnie a été conçue, moi, c'est vrai que j'avais envie de mettre à l'honneur la pratique du théâtre, qui était ma première pratique, et les textes dramatiques, mais de travailler sur un entremêlement avec différentes disciplines artistiques, voire disciplines autres que l'artistique. Et pour moi, c'était aussi ça, aller dans tous les sens. Et j'ai réglé un peu mes comptes en disant que ben voilà, être dans tous les sens, ça pouvait créer aussi des pièces fabuleuses sur un métier à tisser. Voilà, donc j'ai réglé mes comptes avec ma famille au passage.
Parfait. C'est une question que je voulais te poser. Est-ce que c'est important, peut-être, dans le processus créatif, de justement partir dans tous les sens ?
Oui. Enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que j'aime penser l'univers plastique, l'univers musical. Dès le début de la création, c'est présent. En fait, il n'y a pas que les images que le texte crée, c'est les images, mais c'est aussi une musicalité. C'est aussi, je prends le plateau comme un métier à tisser, vraiment. C'est-à-dire que du coup, les fils de chaîne et de trame se croisent, la navette fait son travail. Peut-être un peu une navette, justement, je relis peut-être les fils, les points pour créer une pièce unique à la fin, mais en tout cas, on a besoin de différentes couleurs, différentes textures pour créer aussi les motifs, les formes. C'est un peu comme ça que je pense mon travail, en fait, de créer du lien entre les différents éléments du plateau. Et j'aime aller chercher et travailler comme de la broderie fine aussi, hein, entre les éléments musicaux, les éléments de lumière, et de me faire accompagner sur ces différentes disciplines pour la fabrication de cet ouvrage, en fait.
C'est quelque chose dont tu parles souvent, cet aspect de tisser, de métier à tisser, d'ouvrage textile. Qu'est-ce qui te plaît en particulier dans cette image ? Est-ce que l'univers du textile est peut-être un univers qui t'intéresse aussi ?
L'univers du textile est un univers qui m'intéresse parce qu'il est très plastique. Il est extrêmement intéressant à travailler au plateau, à la fois volatile, à la fois selon la manière dont on le fait tomber, dont on le travaille, il peut être très structuré, il peut nous échapper, il peut... Donc voilà, au niveau scénographique, c'est vraiment une matière qui est très intéressante. C'est une matière qui est très intéressante aussi quand on pense à tous les aspects costume, parce que c'est un peu une double peau. Et donc tout ce que ça dit, le costume, le vêtement, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de ça dans nos existences finalement, et sur la question de la mode, ou au contraire le fait de ne pas être à la mode. Et dans le monde entier, le costume a toujours été relié aussi au texte et au récit. Il y a de nombreuses mythologies qui évoquent le fait que les premiers mots ont été glissés dans les premiers tissus. Et puis il y a cette racine latine qui est quand même que textus est la racine de tissu et de texte. Donc il y a vraiment quelque chose qui est entremêlé pour moi effectivement depuis très longtemps, que j'exploite au fur et à mesure des créations, aussi un peu comme beaucoup d'artistes, je pense comme une forme d'obsession, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à aller à pousser, à aller vraiment tirer, mais aussi parce que c'est un univers qui est extrêmement vaste et que j'en ai pas fini.
Il y a une autre question, tu parlais de musicalité, et toi tu viens de l'univers de la musique. Qu'est-ce qui t'a attiré, retiré de la musique et attiré vers le théâtre justement ?
Ben, je retrouve dans les mots une musicalité aussi, de toute façon. Après, je pense que j'étais un peu aussi une curieuse de beaucoup de choses et que l'idéal aurait surtout été que je continue les deux. Mais le côté plastique m'intéressait aussi. C'est vrai que je me penche plus que volontiers sur la scéno. C'est-à-dire que quand je pense à un travail, je pense scénographie, en fait. C'est la mise en scène, c'est la direction d'acteur. Mais avant tout ça, dans ma mise en scène, il y a vraiment le rapport à la scénographie dès le début qui est présent. Je pense que ce qui m'a amenée au théâtre, c'est aussi ce que j'y ai trouvé dans le rapport aux émotions quand j'étais adolescente et qui m'a fait partir de ce côté-là. Non pas que la musique ne me faisait pas vivre d'émotions, bien au contraire, mais je pense que pouvoir poser des mots à cette période-là aussi de vie, ça a été primordial et que ça m'a fait partir dans cette direction. Mais il se trouve que dans les créations que je propose, il y a toujours des musiciens ou il y a toujours... même s'il n'y a pas de musicien au plateau, la musique a son importance.
Une place ouais, qui est accordée à la musique, on pourra en parler, ce sera certainement le cas dans les Vaillantes. Et justement, bah, ça tombe bien, on en vient au vif du sujet, donc à la création de cette pièce Les Vaillantes, qui est donc, tu l'as évoqué, mais qui est une pièce adaptée d'un texte de Jeanne Benhamer qui s'appelle Le Ramadan de la Parole, qui a été publié pour la première fois en 2007. Alors pour parler en deux mots de ce texte, c'est un recueil de trois monologues. Chaque monologue est celui d'une jeune femme et chaque jeune femme dont c'est le monologue vient d'un environnement et d'une époque différente, mais leur point commun c'est qu'elles vivent une sorte d'insurrection silencieuse. Elles s'opposent aux diktats et aux injonctions de leur société à chacune. J'avais envie de commencer par te demander comment est-ce que tu as découvert ce texte et qu'est-ce qui t'a touché dedans.
Je l'ai découvert en 2007 un peu, je pense, au hasard, c'est-à-dire que régulièrement quand j'atterris dans une bibliothèque ou une librairie dans laquelle il y a des textes de théâtre, je regarde les nouveautés, bon voilà. Et Jeanne Benhamer est une autrice que je suis depuis très longtemps, en particulier ses romans, particulièrement ses romans, que je lis depuis très longtemps. Et là, je trouvais que ces textes, qui sont vraiment voués à être lus par des jeunes publics, des adolescents, étaient à la fois courts et fort. Et c'est un des textes que j'ai travaillé d'abord juste comme ça, en atelier théâtre avec les options théâtre ou des options en collège, je ne sais plus exactement, mais j'ai travaillé déjà pour leur faire découvrir ces textes, mais comme une matière de travail uniquement. Puis ça en est resté là, tout en me disant ça pourrait être intéressant d'y revenir. Et puis d'autres projets ont pris place d'abord. Et puis, il y a quelques temps, je me suis dit que j'avais envie de les remettre au devant et d'en faire une forme professionnelle.
Tu me l'as dit hors micro, c'est des textes qui sont très courts
oui.
à lire, qui durent 7, 9 et 11 minutes au total à lire, donc c'est vraiment très court. Comment est-ce qu'on allonge tout ça pour en faire une pièce de théâtre ?
On allonge parce que on crée justement des espaces de respiration et de silence qui permettent d'entendre les mots. C'est-à-dire qu'ils sont courts, mais ils sont denses. Donc si effectivement on les passe juste en lecture à haute voix, en version très grande vitesse, on passe à côté des propos, de l'ambivalence, des contradictions, puisque ça paraît simple à lire. D'un point de vue littéraire, ils sont simples et c'est aussi ce que voulait l'autrice. Elle en parlerait bien mieux que moi, mais je pense que c'est ce qu'elle voulait. Ce livre a d'ailleurs le label Facile à lire, qui est un label du CNL, du Centre National du Livre. L'idée, c'était d'avoir vraiment que le public adolescent, qui est quand même pour beaucoup en rupture avec la lecture, puisse avoir accès à ces textes facilement, qu'il n'y ait pas de lutte de compréhension. Là-dessus, effectivement, il n'y a pas de lutte par rapport à la compréhension, mais ils sont très denses. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, ça brasse de nombreuses thématiques, même quand elles semblent très éloignées de nous, comme pour le premier texte qui s'intitule « Même les Chinoises n'ont plus les pieds bandés », où on est en 1920. On pourrait se dire « c'est loin, derrière nous, ça ne nous concerne pas ». Et en fait, ça remue aujourd'hui, au contraire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qui reviennent au goût du jour, hein, qui sont plus du tout éloignées, pas autant qu'on ne le pense en tout cas. Voilà.
Des choses qui sont toujours très actuelles. Tu parles de la jeunesse et j'avais envie de revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait qu'il y a eu des travaux avec justement les jeunes sur ces textes-là. Quelle implication est-ce que tu as donné dans cette création, aussi bien du coup, au public extérieur, mais aussi à l'équipe qui a travaillé avec toi ? Quel est le rôle que chacune a pu prendre dans cette création-là ?
Sur l'interprétation, on a beaucoup joué justement les deux comédiennes, Margot Dupré et Léa Douzièche, ont fait des propositions lors d'improvisation qu'on a faite à partir d'idées de scénographie. C'est vraiment la matière plastique. En fait, ce qui a été mon fil conducteur par rapport à ces trois textes, c'est cette question du corps et du décor, la relation entre le corps et le décor. À quel moment on essaye de se fondre dans le décor pour disparaître et pour être tranquille. C'est ce qu'on fait quand éventuellement on s'habille à la mode ou au contraire qu'on fait des choix, en tout cas, pour disparaître et être tranquille. Et à quel moment, tout d'un coup, parce que on est dans une manière de s'habiller qui fait tache, qui sort du décor. Tout d'un coup, on est fustigé, regardé de haut, voire même jugée et condamnée à cause de ça. Donc, le rapport à l'habillement, en tout cas pour les femmes, hein, une fois de plus, on est quand même là très ciblé sur une critique qui est destinée au féminin. Autour du vestimentaire, on est encore en plein dedans aujourd'hui. Et donc, j'avais envie que sur ces trois textes, cette question du corps et du décor soit exploitée de manière différente, avec des scénographies très différentes. Donc, on est parti sur des matières plastiques différentes. Bon, même si sur les deux premiers, il y a un lien avec le tissu, mais en tout cas, une matière plastique différente, une colorimétrie différente, un univers musical différent. Et c'est à partir de ces éléments scénographiques qui amenaient des contraintes de jeu que les deux comédiennes ont fait des propositions en improvisation. Voilà. Pour le musicien-compositeur Charlie Koschowski, vraiment, ça a été de construire, de faire une broderie entre les mots des demoiselles et un univers musical, c'est-à-dire un thème musical qui pourrait correspondre à chacun, à chaque univers, à chaque texte. Et puis, pour ce qui est du rapport à la lumière, alors là, ça a été vraiment de sculpter le rapport à la scénographie et de sculpter l'espace aussi grâce à la lumière. Et comme il y a vraiment un jeu de couleurs, Pierrick Fortoul a vraiment travaillé sur ce va-et-vient entre la plastique au plateau et le rapport des couleurs. Et puis après, pour les créations, j'ai fait appel, création costume, pour un des textes à Ariane Bourgeois, qui est couturière. Et pour un deuxième projet, il y a une robe décor, un espèce de mix entre les deux qui a été créé par Sébastien Crémel, qui est un spécialiste de la toile de parapente.
Beaucoup d'univers là aussi qui se recroisent, oui, dans cette création, et chacune a pu amener son savoir-faire aussi dans cette création.
Et pour le dernier, j'oubliais, j'ai fait appel à Christophe Galeron, qui est plasticien, qui avait déjà travaillé avec nous sur Burnout, et qui a fait, j'avais besoin d'un dessin, puisqu'il est question d'une affiche et d'une photographie, et moi j'ai fait glisser légèrement cette chose-là. L'affiche, je l'ai transformée en un dessin. Voilà, donc on a fait appel à Christophe Galeron.
Tu as parlé de la place du décor et du rapport entre le corps et le décor dans la présentation du projet. Une phrase qui m'a marquée, c'est que chaque personnage de jeune fille est porté par une comédienne quand l'autre deviendra ornementeuse. Il y a un jeu de mots avec ornementeuse. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ça m'a assez intriguée, ce concept-là.
Alors ce concept, en fait, c'est de manière plus simple, c'est que les jeunes filles font de la régie plateau à vue. Ça serait la façon la plus simple dont on pourrait évoquer cette chose-là. C'est un peu moins poétique à mon sens. Là, l'idée, c'est qu'en fait, on a trois textes, trois jeunes filles différentes, et ces trois textes sont portés par deux jeunes filles. Quand l'une porte vraiment le personnage, l'autre est vraiment justement celle qui ornemente, qui crée des éléments de décor et qui vient soit imprimer quelque chose sur le corps de l'autre, soit l'empêcher, soit la manipuler. C'est-à-dire, c'est un peu le Deus ex machina, quoi. C'est elle qui vient travailler le corps de la comédienne en jeu et qui lui impose des choses, qui crée la contrainte en utilisant justement ces éléments de scénographie que l'on a pensé pour qu'elle les manipule et pour qu'elle crée des contraintes sur le corps de la comédienne. Et ornementeuse, le jeu de mots, c'est effectivement avec le côté menteur-menteuse et de jeu, évidemment, sur lequel on joue à ce moment-là.
L'environnement de ces jeunes filles, justement, serait une sorte de mensonge dont elles cherchent à s'extirper.
Ah, mais complètement. Alors, pour les trois, le mensonge, ou en tout cas le mensonge ou le mirage, ou en tout cas cette chose-là qui ne correspond pas à ce qu'elles ressentent, elles, profondément, est exploitée de manière vraiment différente. Mais effectivement, là, ce qui est évoqué sur ces trois textes, même si c'est trois univers très différents, c'est quels sont les outils d'émancipation pour chacune d'elles quand, effectivement, les unes et les autres se retrouvent piégées dans un contexte dans lequel elles subissent vraiment des injonctions sociétales, familiales, et quels outils d'émancipation elles parviennent à trouver et à utiliser pour se sortir, s'extraire de ce piège. C'est un peu aussi à l'image de la toile d'araignée, en fait, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se tisse autour d'elles, mais qui les piège dans cet aspect-là du tissage. C'est pas pour le côté le plus positif, là. Elle cherche vraiment à s'extirper de cette chose-là. Ça questionne évidemment énormément la notion de liberté, de déterminisme social aussi. Bon, voilà, il y a énormément de questionnements derrière.
C'est un texte donc qui a été écrit par Jeanne Benhammer. Est-ce que tu as pu travailler avec elle dans cette mise en scène? Est-ce qu'elle a eu sa place dans cette création-là?
On est en contact avec Jeanne Benhammer. On a été en contact. La première chose, ça a été d'abord qu'elle puisse donner son accord sur la mise en scène de ce texte. Le contrat de départ, le contrat qui a été le nôtre, c'est que ce ne soit pas une adaptation. C'est-à-dire que ce soit les textes stricto sensu et qu'il n'y ait pas d'autres textes qui se glissent avant, au milieu, après. Uniquement ces trois textes. Sinon, ça aurait été un travail d'adaptation avec elle, mais elle ne souhaitait pas spécialement être dans ce type de travail. Donc, on est vraiment sur les trois textes. La seule chose qu'on a adaptée, c'est le titre. Puisque moi, par contre, j'étais dérangée d'utiliser le titre « Le ramadan de la parole », que je trouve absolument magnifique, mais qui est le titre d'un des trois textes. Là, je voulais faire honneur aux trois textes sans utiliser un titre plutôt qu'un autre. Et donc, on en a discuté. Et je lui ai proposé ce titre-là des vaillantes, puisque la vaillance, c'est aussi justement ce courage qui passe par le corps, mais c'est aussi dans une étymologie ancienne, et c'est sans doute le sens qui m'intéresse le plus, la vaillance, c'est aussi autour de la question de la valeur et de ce que je vaux à mes propres yeux. Et pour le coup, ces trois jeunes filles, c'est ce avec quoi elles luttent, en fait. C'est qu'est-ce que je vaux à mes propres yeux et comment je me débarrasse aussi du regard des autres et comment je m'en libère en sachant que de toute façon, on est quand même la somme souvent, des regards qui sont portés sur nous aussi. Donc, comment ne pas en être esclave ? Enfin, c'est aussi la question de l'héritage et de la transmission par rapport à la famille. C'est-à-dire, on jette un regard sur nous, il y a des choses qui nous vont, des choses qui ne nous vont pas. On découvre plus tard que finalement, peut-être qu'ils n'avaient pas tout à fait tort, mais il y a peut-être des choses, il y a des choses qui emprisonnent. Comment se libérer de cet emprisonnement ? Bon, voilà, c'est aussi tout ça qu'il y avait derrière, autour de la valeur et de la vaillance. Et quand je lui ai proposé les vaillantes, elle a tout de suite dit, bah oui. Donc, après, on a eu d'autres discussions autour de, voilà, du texte. Et puis surtout, les dernières discussions, là, même si on n'est pas encore sûr à 100%, c'est surtout autour de sa venue, puisqu'on aimerait qu'elle puisse venir début décembre, au moment de la création. C'est en bonne voie, mais voilà, on n'est pas encore sûr à 100%, mais il y a des chances pour qu'elle soit là.
Bon bah on espère, on croise les doigts en attendant pour qu'elle puisse venir. J'en profite pour glisser un mot à ce propos. Les premières représentations seront le 8, le 9 et le 10 décembre au Théâtre La Passerelle à Gap. Il y a toutes les informations sur le site internet du théâtre. Bien sûr, je ne peux qu'inviter nos auditeurs et auditrices à venir découvrir ces premières représentations de la création. Création pour laquelle vous avez été avec ton équipe en résidence jusqu'à très récemment, la fin de la dernière résidence, la toute dernière de création. C'était à Marseille, à l'Astronef, c'était du 27 au 31 octobre. Est-ce que vous vous sentez prêt après cette dernière résidence ?
Bah, pas du tout. Mais je crois que c'est normal, puisque de toute façon, même après ce qu'on appelle le dernier temps de résidence, on aimerait encore en avoir un peu plus, à tort ou à raison, parce que ça peut ne jamais se terminer. Ça a été une semaine où on a pu écumer beaucoup de problèmes techniques, et c'était vraiment fait pour ça, et autour de la scénographie, en l'occurrence, qui a une forme d'exigence, en tout cas à la mise en place, sur laquelle il ne faut pas se louper. On peut estimer que ça s'est réglé, et que peut-être on sera tranquille pour le mois de décembre. C'était vraiment bien d'être comme toujours, en fait, les temps de résidence, ce qu'il y a de force, c'est qu'on est en immersion totale et que pendant ce temps-là, on ne fait pas mille autres projets ou de gestion de diverses et variées. Donc, on a vraiment bien avancé. On a été très chaleureusement accueilli par l'Astronef, qui est un lieu que j'invite même le public haut alpin à découvrir dans un site hospitalier. C'est Édouard Toulouse, quartier Nord, qui est un hôpital psychiatrique qui a son lieu à la fois de résidence de création et de programmation au sein de l'hôpital. C'est l'hôpital qui porte le projet, qui défend le projet, qui le soutient. Alors avec les moyens du bord, beaucoup de bénévolat, même de la part de la direction. C'est un investissement très fort de la part des équipes, mais une très grande chaleur et un soutien. Voilà, humainement, on était très, très bien accueillis. Et ça, c'est important aussi pour travailler, en fait, de sentir un espèce de soutien inconditionnel sur des étapes de fabrication. En tout cas, c'est vrai qu'on a aussi besoin de sentir ce soutien-là.
Et peut-être une dernière question avant qu'on passe à la conclusion. C'est un travail que tu as entamé à peu près en 2024, cette création des Vaillantes. Ça commence à faire un petit moment. Est-ce qu'il y a eu des choses que tu as dû abandonner en cours de route, que tu regretterais, ou au contraire, peut-être des bonnes surprises qui ont jailli de ce projet-là ?
La bonne surprise, ça a été sur la constitution de l'équipe. Ça, c'est toujours une surprise. C'est-à-dire que même si individuellement, on est confiant sur telle ou telle personne, la manière dont ça va se dérouler entre les uns et les autres, ça, on n'a aucune maîtrise quand même de la chose. Et il se trouve que c'est vraiment une équipe qui fonctionne très très bien, au plateau aussi, j'en suis vraiment ravie, mais humainement aussi, c'est des gens qui se retrouvent. Donc ça a fait partie des bonnes surprises. Bah, bien évidemment, j'ai envie de dire que j'ai dû faire des concessions, oui, sur la scénographie, parce que là, ça se joue sur un aspect financier. Et sur le temps de travail, c'est vrai qu'on aurait supporté d'avoir plus de temps, ça c'est l'évidence. Mais dans l'ensemble, sinon, on a réussi à tenir notre ligne, non. Vraiment, je pense en tout cas sur cette ligne directrice qui était ce rapport, voilà, du corps des corps, de ces trois textes, de trouver ce qui les relie, tout en sachant qu'on passe quand même d'un récit à un autre. C'est une construction particulière aussi au niveau d'un spectacle, puisque c'est pas une narration d'un seul bloc sur une seule histoire, mais trois histoires différentes. Donc c'est pareil, comment on garde le public avec nous, comment on l'attrape à nouveau, on l'emmène dans un autre univers. Il y a aussi des enjeux à cet endroit-là. Donc voilà, après, ça sera la réponse, c'est le public.
C'est le public qui la donnera.
Qui la donnera.
Et justement, ben, pour conclure, il me reste encore une ou deux questions. Est-ce que c'est important pour toi que le théâtre soit engagé, ou est-ce que c'est une sorte de bonus qui est arrivé là ?
Non, je pense que c'est la place du théâtre dans la cité d'être engagé. Après, on est engagé à différents niveaux. Moi, mon engagement, il est autour de la poésie et des histoires, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas, pas forcément militant. Il est justement dans ce questionnement autour de quels sont les outils d'émancipation, comment on y accède, pourquoi on n'y accède pas, qui ne peut pas y accéder, et comment ce spectacle-là, justement, est aussi conçu pour aller à la rencontre des jeunes, parce que c'est à cet endroit-là que se situe l'engagement, surtout. Je sais que les textes vont faire grincer des dents pour certaines choses, pour certains éléments. On s'attend à avoir des discussions qui peuvent être parfois même houleuses sur certains aspects. Mais justement, on est aussi là pour ça, c'est-à-dire pour enclencher le dialogue. C'est plutôt bon signe si se crée le dialogue. À une époque où on est dans vraiment... C'est très polarisé, hein, il faut choisir un camp, un clan. Justement, nous, on a envie de permettre ce dialogue-là. Donc oui, c'est engagé. Et puis le rapport aux femmes, je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur, effectivement. La place des femmes dans le milieu artistique, mais pas que, hein, dans le milieu... le rapport, les femmes, tout court.
Dans le monde, finalement.
Je crois qu'on est quand même... On assiste quand même à un retour en arrière. On peut s'en inquiéter, nous, déjà, dans notre propre pays. Je pense qu'on ne peut toujours pas faire l'économie de se questionner sur ce rapport-là et sur comment la femme reste souvent quand même un objet de sexualisation, un objet de pouvoir, mais voilà, à quel endroit elle se sent vraiment libre d'exister. Je pense que c'est important pour les jeunes générations de repenser toujours, de re-questionner cette chose-là.
Donc c'est aussi une invitation à la réflexion pour le public, justement, et aux échanges. Eh ben, j'allais te demander ce que tu aimerais que les spectateurs et spectatrices retiennent en sortant de cette pièce. Est-ce qu'il y a encore autre chose qui viendrait ?
Ben, si, c'est se questionner sur, effectivement, à quel endroit, pour chacun d'entre nous, et là, pour le coup, hommes, femmes confondus, on se retrouve piégé dans des injonctions, et avec quoi on négocie ? En conscience, en fait. Et puis, effectivement, bah, pour que le public se pose la question de comment on se comporte aujourd'hui avec la jeunesse de manière générale, et entre autres avec les jeunes filles. Et est-ce qu'on leur impose encore une multitude d'injonctions, qu'elles soient sociétales ou familiales, que tout un chacun puisse se poser la question aussi de ce rapport au public adolescent, jeune adulte, et comment ils se sentent dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Se poser la question aussi des outils, à quel... Est-ce qu'on y a tous accès ? Bon, moi, ma réponse, c'est que non, effectivement. Et dans ces cas-là, comment le permettre ? Voilà, ce genre, effectivement, de questionnement, que les gens soient émus, en fait, par le cas de ces jeunes filles, qui sont assez représentatives de bon nombre. Alors, ces trois textes, il pourrait y en avoir 3 milliards. 3 histoires, évidemment, par rapport à la population au féminin, c'est rien du tout. Il pourrait y en avoir beaucoup plus. Mais c'est... À travers, en tout cas, ces 3 histoires qui sont très différentes et qui partent d'un angle et d'un point de vue très différent, se poser la question pour soi-même ou pour son entourage aussi, déjà.
Donc inviter encore une fois justement à la réflexion, et à la réflexion pour la jeunesse aussi,
oui,
dans ce sens-là. Eh bien, écoute, Cécile, ça fait un moment qu'on parle. Je vais te libérer ici. Merci beaucoup, je le rappelle. Donc, tu es Cécile Brochoir, metteuse en scène, comédienne, créatrice de la compagnie Chabrak. Et surtout, tu portes la création Les Vaillantes, qui sera représentée le 8, le 9 et le 10 décembre au Théâtre La Passerelle à Gap, qui a été assez présent auprès de vous, Cécile, pour cette création.
Oui, le Théâtre La Passerelle a été plus que précieux. C'est ce qu'on appelle vraiment un coproducteur. Donc, il a coproduit le spectacle. Il nous accueille en résidence et il nous permet effectivement d'être au plateau pour la création les 8, 9 et 10. C'est un soutien qui est précieux, c'est un soutien local. C'est vrai qu'on est dans un département où il n'y a pas énormément de lieux et de sentir le Théâtre La Passerelle derrière nous, c'est à la fois enthousiasmant et nécessaire, puisqu'on sinon on serait tout petit dans nos Hautes Alpes. Merci aussi vraiment à eux pour cet accompagnement.
Voilà, et peut-être qu'en tant qu'auditrice et auditeur, le meilleur moyen de reconnaître ça, c'est de venir à vos représentations, je le rappelle, le 8, le 9 et le 10 décembre au Théâtre La Passerelle. Merci Cécile d'avoir été avec nous.
Merci à toi.